VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Abidjan, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre le groupe État islamique au Proche et au Moyen-Orient. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, affirme aujourd'hui détenir des informations en provenance de hauts responsables du groupe djihadiste État islamique, confirmant la mort de leur chef Abou Bakr al-Baghdadi. Selon le président de l'OSDH, Rami Abdelrahman, ces hauts responsables de l'État islamique présents dans la province de Deir ez-Zor en Syrie font état de la mort de l'émir de l'État islamique Abou Bakr al-Baghdadi. Nous l'avons appris aujourd'hui, a déclaré à l'AFP Rami Abdelrahman, mais nous ignorons quand et comment il est décédé. Conflit en Irak, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein, a lancé un appel ce mardi en faveur de la justice et de la réconciliation après la reprise de Mossoul par les forces gouvernementales irakiennes après 3 ans d'occupation par les militants de l'État islamique. Al-Hussein a aussi indiqué que selon les informations recueillies par son institution sur le terrain, le groupe État islamique pourrait s'être rendu coupable de crimes contre l'humanité tout au long des 3 années pendant lesquelles il a contrôlé non seulement Mossoul, mais aussi une grande partie du territoire irakien. Zeid Raad al-Hussein cite notamment l'enlèvement de 1636 femmes et filles ainsi que de 1733 hommes et garçons de la communauté yézidi dont on reste sans nouvelles jusqu'à ce jour. Afrique du Nord, au Maroc, les autorités judiciaires ont ordonné une enquête après la diffusion d'une vidéo controversée de Nasser Zefzafi, le leader emprisonné de la contestation dans le nord du pays. Vidéo manifestement filmée en détention et qui suscite la polémique ce mardi. On y voit Zefzafi, visiblement filmé depuis une cellule, en train d'exhiber des parties de son corps, comme pour montrer qu'il n'a pas été violenté. La vidéo a été diffusée lundi par un site d'information local réputé proche des milieux sécuritaires. Et ce, dans la foulée de la comparution de Nasser Zefzafi devant un juge d'instruction à Casablanca. La vidéo en question n'est plus disponible. Libye, 4 morts, dont au moins 2 civils. Tel est le bilan des combats dimanche et lundi entre les groupes rivaux à l'est de la capitale Tripoli, selon le ministère libyen de la Santé. Sur sa page Facebook, publiée dans la nuit de lundi à mardi, le ministère a précisé que les 4 victimes, dont 2 travailleurs étrangers, avaient été tués et 21 autres personnes blessées dans les affrontements à Garabouli, à 60 km à l'est de Tripoli. La nationalité des 2 étrangers n'a pas été précisée. Soudan, le président américain Donald Trump va se prononcer cette semaine sur la levée ou non des sanctions de Washington contre Khartoum. Ces sanctions imposées il y a 20 ans ont été allégées en janvier par son prédécesseur Barack Obama, peu avant son départ de la Maison-Blanche. Solange Niamoulissa.
Abdel Ghani El Naïm, un responsable du ministère soudanais des Affaires étrangères, a déclaré que le moment est venu de lever définitivement les sanctions imposées au Soudan depuis 2 décennies. Il a précisé que son pays compte sur le président Donald Trump pour prendre cette courageuse décision. En janvier, l'ex-président Barack Obama a décidé une levée partielle des sanctions avec une période probatoire qui s'achève mercredi. Washington attend de voir la fin du soutien de Khartoum au groupe rebelle au Soudan du Sud, la fin des hostilités dans les provinces du Darfour, Nil Bleu et Kordofan du Sud et une coopération dans la lutte contre le terrorisme. Le président Trump a 3 alternatives. Lever définitivement les sanctions, étendre la période probatoire ou faire machine arrière en réinstaurant l'embargo.
Niger, l'attaque d'un camp militaire nigérien dans la région de Tarawa la semaine dernière, incursion qui a fait 5 morts, a été revendiquée par le mouvement que dirige le Malien Iyad Ag Ali dans un communiqué publié dimanche. Notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa, a recueilli ses réactions.
Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dit vouloir par cette attaque punir le Niger pour entre autres son engagement aux côtés des pays comme la France pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel, argument léger selon ce citoyen.
Non, ça, il raconte des histoires. Dans tous les cas, tout le monde sait qu'aujourd'hui, le Niger, c'est un pays musulman à 99%. Donc la question n'est pas là.
Siraji Issa, acteur de la société civile, doute, lui, de la volonté des autorités nigériennes dans la résolution du problème sécuritaire.
Nous, en tant 5 organisations de la société civile. Nous allons sensibiliser nos concitoyens pour qu'ils, en tout cas, assistent nos forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur mission, qu'on les assiste, en tout cas, à leur donner des informations pour éventuellement éviter ces genres d'attaques.
C'est la première fois que cette organisation revendique une attaque au Niger, une attaque qui a fait un rappel, 5 morts dans les rangs des soldats nigériens. Le ministre de la Défense s'est rendu le week-end dernier au niveau de la compagnie qui a été attaquée pour remonter le moral des troupes. Abdoul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Congo-Brazzaville, la société civile et l'opposition congolaise ont mobilisé les troupes lundi pour protester contre la tenue des législatives du 16 juillet prochain. Le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel, le FROCAD et l'Initiative pour la démocratie au Congo, IDC, ont préparé ce rassemblement à Brazzaville. Claudine Mounari, la présidente de cette coalition, y a appelé le parti au pouvoir au dialogue pour régler d'abord et avant tout le problème de la sécurité dans la région du Poule et la question des prisonniers politiques. On écoute Madame Mounari au micro de Jean-Roger Bion.
Le point de rassemblement retenu par les organisateurs de Rencontre de Mounari était envahi par une armada policière, militaire, même il y a eu même un blindé attendu à un moment donné de la journée. Et donc vraiment, c'était des policiers à chaque mètre carré, des engins, la place était impraticable. Voilà comment au Congo, on permet à la société civile qui n'est pas armée de s'exprimer.
Vous manifestiez pour demander l'annulation des législatives du 16 juillet prochain. Est-ce que vous semblez avoir été entendu?
Ces élections, nous, on ne devait pas y participer parce que nous, la fédération, on avait fait une décision pour dire qu'on n'y participait pas parce que ça serait cautionner ce gouvernement, ce gouvernement illégal qui gère le pays depuis le hold-up électoral du 4 avril 2016. Donc, pour nous, participer à cette élection n'avait pas lieu d'être. Donc, toutes les manifestations dans ce sens-là, nous les soutenons. Avons-nous été entendus? Nous le saurons. Mais le combat continue. Hein, c'est pas fini.
C'est un dialogue de sourds entre vous et le parti au pouvoir.
Bon, en tout cas, le parti au pouvoir ne veut pas entendre raison. Le gouvernement a les armes. Il impose sa volonté à tout le monde par les armes, en traumatisant toute une population. Vous avez vu l'armada telle qu'on vient d'en parler pour un rassemblement pacifique d'un groupe de gens qui ne sont pas armés.
Madame Mounari, dites-nous quelle est la situation actuellement dans le Poule et quel est le sort des prisonniers politiques?
Bah, écoutez, le fait que vous venez d'évoquer vous-même, c'est-à-dire la guerre du Poule et des prisonniers politiques, sont la résultante du hold-up électoral. Donc un problème éminemment politique. Donc nous pensons que nous devons nous retrouver autour de la table pour expurger tout ce qui bloque le pays, parce qu'aujourd'hui, le pays est totalement bloqué, il faut qu'on s'asseye pour discuter. Mais la partie en face ne veut pas entendre raison. Sinon, la guerre du Poule, elle continue. Pas plus tard qu'hier, on dénonçait 90 morts dans la zone de Kibamba. Les prisonniers politiques parce qu'ils n'ont pas reconnu les résultats de l'élection présidentielle ou ont osé participer à l'élection présidentielle, les dossiers sont vides. Donc, depuis plus d'un an pour les uns, Mokoko par exemple, on n'arrive pas à aller au procès parce que le dossier est vide. C'est le cas pour tous ceux qui sont maintenus en prison pour des raisons politiques parce que le dossier est vide. Parce que, au mépris de leurs droits fondamentaux, ces personnes ont été privées de liberté.
Claudine Mounari, présidente d'une coalition de l'opposition au Congo-Brazzaville. Et pour terminer, le président rwandais Paul Kagame effectue une visite en Israël pour chercher à développer le commerce et la coopération entre le Rwanda et l'État hébreu. À son programme des consultations avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Yacouba Ouedraogo.
Paul Kagame a été reçu par Benjamin Netanyahou. L'homme fort de Kigali a affirmé que la coopération entre Israël et les nations africaines s'est développée surtout dans la technologie, l'agriculture, l'énergie et la sécurité. Pour sa part, Benjamin Netanyahou a tenu à souligner les grands liens unissant les deux pays. Selon lui, les Israéliens ont connu le plus grand holocauste de l'histoire et les Rwandais, l'un des plus récents génocides. Le premier ministre israélien estime alors que le Rwanda est le pont indispensable pour son pays qui effectue son retour en Afrique. En juillet 2016, M. Netanyahou s'est rendu dans 4 pays africains, dont le Rwanda, et a assisté en juin dernier au sommet de la CEDEAO au Libéria.
Merci de votre attention.
soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.